Le fils Mouga Première partie, chapitre 11. C'eût été le bonheur s'ils avaient vécu dans une île déserte. Mais ils vivaient dans une petite ville où on a des yeux de lynx pour épier la conduite du prochain. Avant la fin du mois d'août, chacun savait qu'il se rencontrait presque tous les jours au moulin des âges. Les bourgeois, amateurs de pêche à la ligne, les avaient épiés de loin, à travers les saules, et la femme du notaire, revenant de la foire de Saint-Laurent, les avait aperçus de la route de Charroux un soir qu'il longeait la Charente. Bientôt, tout Saint-Clémentin parla des rendez-vous que Mademoiselle Desroches donnait au fils Mouga, et les âmes charitables plaignirent M. Desroches. Le médecin n'avait pas de chance, et la fille ne valait pas mieux que la mère. Quant à Étienne, on ne l'épargnait pas non plus, et les mères de filles à marier le trouvaient impardonnable. Madame Mouga fut informée l'une des premières du scandale que causait son fils. « Eh bien, dit-elle en rentrant à M. Mouga, j'en apprends de belles. Il paraît qu'Étienne s'est amouraché de la petite Desroches. » Elle raconta à son mari les histoires qui faisaient le tour de la ville. Le banquier se contenta de sourire. Il n'était pas fâché de savoir qu'Étienne devenait moins puritain et mettait ses conseils à profit. « Après, dit-il plaisamment, il s'amuse, cette sonnage. Avais-tu la prétention de le couver sans cesse sous tes jupes? Mais il affiche cette petite sotte. Tant pis pour elle et pour son père. Au lieu de faire de la politique, il devrait mieux surveiller sa fille. Étienne est garçon et il court après les fillettes. C'est dans son rôle. Et je suis de l'avis de ce paysan qui criait à travers le village « Rentrez vos poules, mon coq est lâché !» « C'est immoral, répliqua Madame Mouga, et de plus, c'est dangereux. Supposons qu'Étienne s'éprenne sérieusement de cette fille et qu'un jour, il vienne te sommer de donner ton consentement au mariage. » Le banquier siffla ironiquement. « Je voudrais voir ça. D'ailleurs, ajouta-t-il en serrant ses lèvres balafrées, ce qui donnait à sa figure une expression cruelle, « si cette demoiselle devenait gênante, j'ai un moyen de nous en débarrasser. Ne parle de rien à ton fils et laissons aller les choses. Je suis là et tu peux dormir tranquille. » Ce petit discours ne rassura Madame Mouga qu'à moitié. Elle tremblait que le bruit de cette amourette ne vînt aux oreilles de M. Desroches et qu'il ne s'adressât directement à Étienne pour lui demander raison de sa conduite. Jusque-là, pourtant, le docteur était la seule personne de Saint-Clémentin qui ne sut rien de ce qui se passait. Toujours en course par les villages et de plus en plus enfoncé dans la politique à mesure que se précipitaient les événements qui marquèrent la fin de l'année 1851, il ne rentrait que fort tard au logis et s'inquiétait peu de ce que Thérèse y faisait pendant son absence. On était au mois d'octobre. Les journées devenaient plus courtes et moins sûres. Un après-midi, pendant qu'Étienne achevait le portrait de Thérèse, ils furent surpris par une brusque averse et il fallut plier bagage. Ils pensèrent d'abord à s'abriter sous les roches, mais la pluie menaçait de devenir plus violente. La toilette légère de Mademoiselle Desroches commençait à être mouillée et ils se décidèrent à se réfugier dans l'une des borderies voisines du moulin. Quand ils arrivèrent, Les métayers se hâtaient de rentrer les regains dans le fenil, tandis que, par la porte de l'étable, on apercevait les bœufs fraîchement dételés et occupés à manger. La métayère conduisit les deux jeunes gens dans une pièce obscure qui servait de cuisine et de chambre à coucher, et les y laissa seuls. Le gîte disait la pauvreté des hôtes. La lumière y pénétrait à peine par une fenêtre étroite, voilée de toiles d'araignée. Le sol de terre battue était humide. De vieux meubles et quelques ustensiles de cuisine se laissaient apercevoir vaguement dans la pénombre. Dans l'âtre haut et profond, deux maigres tisons fumaient en crépitant chaque fois que des gouttes d'eau tombaient du haut de la cheminée. Les deux jeunes gens se regardaient, et eux qui avaient passé tant d'heures seul à seul en plein air se trouvaient tout à coup embarrassés de leur tête à tête. « Quel triste gîte !» s'exclama Étienne. « On dirait une cave !»« Oui, » reprit Thérèse, « il y a pourtant des gens qui y vivent et qui s'en accommodent. » Ils redevinrent silencieux. Au dehors, la pluie fouettait violemment contre les murs et on entendait la rude respiration des bœufs dans l'étable. Étienne vit les yeux de la jeune fille briller et un sourire éclairer son visage. « À quoi pensez-vous ? » demanda-t-il en se rapprochant. « Je pense, répondit-elle, à la figure que vous feriez, vous, si vous étiez condamné à passer votre vie ici. » Le ciel était si orageux et si couvert que la pièce devenait de plus en plus sombre, et, dans cette obscurité, Étienne ne distinguait plus que les points lumineux des prunelles de Thérèse. Il se sentait attiré, comme par un charme, vers ses regards, et, pour la première fois, un trouble voluptueux lui serrait la poitrine. « Moi ? » s'écria-t-il. « L'endroit est bien pauvre et bien maussade, n'est-ce pas ? Eh bien, je m'y trouverais heureux si je pouvais y mener une simple vie de paysan avec vous. » Elle sourit de nouveau en secouant la tête. « Menteur !» murmura-t-elle. « Je vous le jure, Thérèse. » Leurs regards s'étaient de nouveau rencontrés, et ils se fondaient, pour ainsi dire, tendrement l'un dans l'autre. Étienne avait saisi les mains de la jeune fille. Elle les lui abandonna un moment, puis elle en retira une et porta un doigt à ses lèvres. Au dehors, la métayère secouait ses sabots sur la pierre du seuil avant de rentrer. Les jeunes gens se quittèrent les mains, et la porte s'ouvrit. « Vous êtes sortie par un bien mauvais temps, ma mignonne !» dit la paysanne en faisant une courte révérence à Thérèse. « Et vous aussi, monsieur mon gars. Mais vous n'avez plus qu'à patienter. Voilà le ciel qui se nettoie du côté de Saint-Clémentin. Ce n'était qu'une érabinée, une averse. » En effet, on voyait déjà plus clair dans la cuisine et, par la porte ouverte, on apercevait au loin une blancheur laiteuse dans le ciel. Au bout d'un quart d'heure, la pluie cessa tout à fait, et les deux jeunes gens purent sortir. Les nuées s'entr'ouvraient par places et découvraient des coins de bleu bordés de nuages noirs. Par ces trouées, de rapides coups de soleil tombaient sur les massifs de peupliers aux feuilles déjà jaunissantes. Tout au fond, et comme repoussoir, s'étendait une buée confuse dans laquelle plongeait l'extrémité d'un arc-en-ciel. Les chemins étaient détrempés et Étienne ne voulut pas laisser Thérèse se hasarder seule dans cette boue. Il se décida à l'accompagner jusqu'à l'entrée de Saint-Clémentin. Ils prirent la rive droite de la Charente et le sentier du Moulin des Granges afin de n'avoir pas à traverser toute la ville. Or, le hasard voulut que le docteur Desroches fût précisément en visite chez le meunier des Granges, qui s'était cassé la jambe. Le chemin passe sous une grande porte voûtée qui fait partie des dépendances du moulin, et tandis que les deux jeunes gens s'en revenaient bras dessus, bras dessous, en glissant dans les flaques d'eau et en devisant gaiement, le docteur, qui attendait, lui aussi, la fin de l'averse et qui examinait le ciel derrière les vitres du meunier, les vit tout à coup s'avancer vers le porche de la cour. Il pâlit, se mordit les lèvres et resta un moment paralysé par l'étonnement et la colère. Puis, sans mot dire, il quitta son malade, sauta sur le bidet poids de vin qui lui servait à faire ses courses et, gagnant la grand-route, s'arrangea de façon à rentrer en ville avant les deux promeneurs, qui ne se hâtaient guère. Quand Thérèse, après avoir quitté Étienne au pont des Barres, arriva enfin au logis de la rue Louis XIII, elle trouva dans le vestibule le docteur, qui la prit par le bras et la poussa rudement dans la bibliothèque, dont il referma la porte. « D'où venez-vous ? » lui demanda-t-il. Thérèse le regarda, étonnée de la question et du ton avec lequel elle était posée. « Je suis allée aux âges et j'ai été prise par la pluie. « Vous vous promeniez ?»«
Seule. »
Thérèse rougit faiblement. « Non, » répondit-elle. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je serais bien aise de connaître le compagnon avec lequel vous couriez les chemins. » Elle releva la tête et reprit d'une voix ferme. « C'était Monsieur Étienne Mauga. »«
Vraiment ? » ?»«
Et vous ne mourrez pas de honte en me l'avouant. Ce n'est pas assez d'oublier la retenue qu'une honnête fille doit avoir. Il faut que vous choisissiez, pour vous faire montrer au doigt, le fils de l'homme qui m'a dépouillé.
« Je n'ai rien fait pour être montré au doigt, » répliqua-t-elle vivement.
« Quant à M. Étienne Mauga, si son père a eu des torts, il est le premier à les regretter, et c'est un honnête homme, je puis vous l'affirmer.
Du moment que vous lui décernez un certificat de moralité, je dois vous croire, n'est-ce pas ?»
s'exclama M. Desroches avec un rire sarcastique. « Oui, car je ne mens jamais, » repartit Thérèse. « Et quand vous saurez à quelle occasion j'ai connu M. Étienne Mauga, vous vous étonnerez moins que nous soyons devenus bons amis. »
« Elle est sans vergogne !» se récria mentalement le docteur.
« En effet, » poursuivit-il tout haut ironiquement, « je serais curieux de savoir par le menu cette histoire édifiante. » Elle lui conta brièvement et très franchement les incidents de la noce de Célestin Thiffenot, puis sa rencontre avec Étienne à la source des âges et les séances consacrées au portrait. M. Desroches était abasourdi du calme avec lequel la jeune fille expliquait tout, comme s'il se fût agi de la chose la plus naturelle du monde. Seulement, là où il n'y avait de la part de Thérèse qu'une sincérité ingénue, lui voyait une effronterie sans pareille et une perversité précoce.
« Ainsi, dit-il exaspéré, voilà déjà 2 mois que durait votre commerce clandestin.
Nous ne nous cachions pas. À quoi bon, puisque nous ne faisions aucun mal ?
Comment donc ?
Au contraire ! Ricana-t-il en haussant les épaules. « Vous allez me persuader, n'est-ce pas, que vous passiez votre temps à dire des patenôtres ?» Il se mit à la presser de questions terriblement embarrassantes, posées dans ce langage peu voilé que donne la pratique médicale. Il y avait quelque chose de navrant dans le spectacle de cette jeune fille qui ignorait le mal, soumise à un interrogatoire impitoyable par cet homme aigri et prédisposé à ne voir l'humanité que par ses côtés pervers et grossiers. Les interrogations de M. Desroches faisaient parfois monter le rouge au front de Thérèse. Elle l'éclairait brutalement sur certains périls auxquels, dans l'innocence de son cœur,
elle n'avait jamais pensé. Parfois aussi, elle baissait la tête et refusait obstinément de répondre. « Mais avouez donc !» s'écriait alors le docteur, poussé à bout. « Ayez donc au moins conscience de votre mauvaise conduite !»« Ah ! Le proverbe a raison ! La caque sent toujours le hareng, et vous avez de qui tenir !» Thérèse se redressa sous ce dernier sarcasme, et, le regardant droit dans les yeux, « Je ne vous comprends pas, » dit-elle. « Vous êtes cruelle pour moi. Vous me faites penser à des choses qui ne m'étaient jamais venues à l'esprit. Il se peut, puisque vous me l'affirmez, que ma conduite ait été inconséquente. Il se peut que j'aie commis, sans le savoir, des actes qui, dans le monde, passent pour des fautes. Mais laissez-moi vous dire à mon tour que si j'avais été plus aimé et mieux guidé, j'aurais agi avec plus de discernement. J'aurais été une fille bien élevée et prudente comme les autres, si mon père... « Votre père !» interrompit M. Desroches avec emportement. « Ne parlez pas de votre père ! J'ai toujours douté que vous soyez ma fille, et aujourd'hui, j'en doute plus que jamais. » Elle était debout près du bureau, et sous ce dernier coup, elle se courba comme sous une malédiction. Elle s'agenouilla sur le carreau et, le front appuyé sur le rebord de la table, la figure enfoncée dans ses mains, elle resta écrasée de douleur et d'humiliation. Le docteur Desroches, malgré sa colère et l'orage de rancunes amères que cette scène venait de déchaîner, sentit qu'il avait été trop loin et eut honte lui-même de sa dureté. Il se promenait dans la bibliothèque, cherchant par quel moyen il pourrait adoucir la rudesse du coup qu'il avait porté. Un moment, il s'arrêta près de la jeune fille et, au fond de son cœur desséché, un sentiment de pitié, à défaut de tendresse paternelle, se remua pendant une minute. Ses lèvres se desserrèrent pour adresser un mot de compassion à l'enfant. Mais le docteur était trop logique pour ne pas comprendre qu'il y a des blessures qu'on ne guérit pas. Il savait par expérience qu'une fois certaines paroles prononcées, il n'y a plus de puissance humaine capable de les faire rentrer dans le néant. Il tourna subitement les talons, ouvrit la porte du palier, la referma violemment sur lui, et Thérèse resta seule dans la bibliothèque muette où le jour se mourait. La nuit, qui vient vite en octobre, étendit peu à peu ses crêpes sur les hautes travées de livres, sur la cheminée où le buste de Bichat mettait encore une blancheur vague, sur le carreau froid et miroitant. Et, silencieusement, elle ensevelit dans ses ténèbres l'enfant que sa mère abandonnait, que son père reniait, et qui se sentait maintenant seule, toute seule au monde.